Au mois d'avril, trois films asiatiques sont sortis en salle. Le premier n'est d'ailleurs pas asiatique, mais se passe au Japon, donc on en parle quand même. Il s'agit de 47 Ronin de Karl Rinsch. Jérémy, tu as écrit la critique.
Oui.
De quoi parle ce film, même si le titre nous donne quelques indices sur son contenu?
Donc le film traite de la légende des 47 Ronin qui après la mort de leur maître sont partis en quête de revanche, donc. Et donc ce film qui a coûté les yeux de la tête à Universal et qui s'est ramassé lamentablement au box-office et quand même je trouvais que c'était un film un peu attachant quand même, sous ses aspects un peu c'est un peu raté, mais on a l'impression que qu'il y a une vraie admiration de la culture japonaise. Il y a plus de respect que d'habitude. Là, le Keanu Reeves incarne un personnage de sang mêlé qui est un peu en retrait. C'est pas vraiment le héros du film. Il y a plein de choses comme ça. Il y a un folklore. C'est raté parce que le rythme est complètement saccadé. C'est lent. Ils savent pas. Il y a un propos qui se perd un peu. Ils savent pas où aller. Mais il y a un côté attachant parce que c'est respectueux de la culture japonaise et qu'il y a un vrai amour derrière. Donc moi j'ai trouvé ça pichou, comme on dit. Voilà.
Après, le revers de la médaille, je trouve, c'est qu'on s'ennuie quand même beaucoup pendant le film.
Oui.
Que cet attachement fait que c'est des trucs qu'on a déjà vus 100 fois qui reviennent. En plus, comme c'est pour un public occidental, que tout est surexpliqué dans le film, c'est-à-dire que chaque plan indique que tel personnage représente ceci, et on ne peut pas l'interpréter de...
J'ai beaucoup pensé au Dernier Samouraï, justement, d'Edward Zwick avec Tom Cruise, où c'est un beau livre d'images, il y a une photographie assez travaillée, il y a la petite musique symphonique qui fait vibrer la corde sensible, etc. Mais contrairement au film avec Tom Cruise, où ça se tenait vraiment sur la longueur. Là, c'est vrai qu'il y a des gros trous, on a tendance un peu à regarder ça avec un ennui un peu poli, quoi.
Nicolas ?
Mais en même temps, il y a des scènes qui sont quand même pas mal.
Il y en a une, quoi.
Ouais, bon. Celle que j'ai bien aimée, moi, c'est la scène avec les épées, là, justement, où ils vont dans la grotte, avec où ils vont chercher les épées, avec les espèces de moines oiseaux, là. Elle est pas mal retranscrite, je trouve, une espèce d'effet psychédélique.
En termes de mise en scène, c'est un peu quoi.
C'est assez plan-plan, quoi. Mais...
C'est très plan-plan.
Mais non, mais dans l'idée, elle est pas mal, quoi.
Bon, y a une scène, c'est l'assaut sur la.
Ouais, et puis l'assaut à la fin
dans le théâtre, là.
Ouais.
Là, par contre, il y a un jeu de montage, il y a quelque chose.
Puis il y a quand même Rinko Kimikuchi, donc.
Moi, je trouve qu'elle fait.
Elle a un personnage complètement. Du tout écrit, mais elle est.
Moi, je trouve pas. Je trouve qu'elle fait. Elle fait ce qu'on lui demande de faire dans tous les films américains dans lesquels elle joue. Elle joue la japonaise de service, quoi, pour être. La ville qui
est mais la charme, quoi, même en méchant.
Moi je la trouve pas charmante, je la trouve juste je trouve que c'est un rôle on lui dit fais la japonaise un peu félonne et puis basta, quoi.
Justin, t'es d'accord avec tout ça?
Moi j'ai plutôt bien aimé, c'était comme disait Jérémy, il y a le côté respectueux de la culture japonaise, même si c'est un peu surligné, mais c'est quand même agréable à suivre. Après, c'est vrai qu'il y a des longueurs, mais le film en lui-même, bon, quand on connaît l'histoire, il y avait la version de Mizoguchi, c'est pas désagréable non plus, même malgré le... Et puis le problème pour moi, c'est surtout l'ajout du... Parce que ça a été fait après, ils savaient pas trop sur quel pied danser. C'est l'ajout des éléments un peu fantasy, un peu fantastique, quoi, qui... Ça jure un peu par moment, on a l'impression d'être dans un vrai Shambhara à l'ancienne, un peu épuré, puis tout d'un coup, il y a une espèce d'intrusion de sorcellerie qui... Parfois, ça
jure un petit peu. La première apparition d'une bête un peu fantaisiste, ça te surprend un peu. Tu te dis, merde, putain, c'est pas un Shambhara vraiment classique. C'est un truc, t'as l'impression qu'ils ont bien vu les films de Miyazaki ou un truc comme ils ont voulu incorporer des éléments.
Il y a un peu une fusion un peu forcée, on sent. Mais apparemment, en poste, c'est le studio qui a imposé. Ils avaient peur qu'en faisant un Shambhara vraiment épuré, ça ennuie le public. Du coup, ils sont sentis obligés de rajouter des dragons, des sorcières.
Non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas réussi.
Alors que pour le coup, quand c'est respectueux, ça reste dans la tradition, c'est pas désagréable, ça suit bien. Keanu Reeves, il est sobre, il est correct.
Ça pourrait être sobre, il est sobre.
Non, mais bon, il a une présence, il a du charisme, même si c'est pas l'acteur le plus expressif du monde, il a une présence, un petit côté zen qui fonctionne bien.
Et c'est les cheveux, ça.
La barbe aussi.
La barbe et les cheveux, c'est vrai.
Et puis bon, ça moi j'ai trouvé ça, j'ai pas trouvé ça désagréable. Hein. C'était, là aussi, comme on disait pour Tigre et Dragon, pourquoi pas pour les novices de chez Novice, une bonne introduction au Chambara, pourquoi pas.
Puis ils vont pas jusqu'au bout en plus, parce que ils vont pas au bout de leur démarche. À la, bah, je vais pas spoiler, mais dans la, oui, oui, c'est ma spécialité, mais. Mais la scène, la, quoi, vers la fin, ils vont pas jusqu'au bout de
bah,
l'idée.
C'est juste, tu vois, bah, tu vois pas.
Y a un, non, pas, mais il y a un petit. Pas de voir, mais il y a un petit twist, quoi, un petit, qui fait que c'est un mini happy end, quoi. C'est un mini
happy end. Pas complètement.
Enfin, on va pas spoiler parce qu'ils vont tout cacher tout le film.
C'est vrai que sur cette histoire, les dernières adaptations japonaises sont assez traditionnalistes, justement, représentant un Japon ancestral avec des coutumes et l'honneur qui est au-dessus de tout, qui peut être justement dérangeant. Donc là, la fin est assez intéressante par rapport à ça, parce qu'ils peuvent pas faire un happy end complet. On sait comment ça finit, les 47 ronins en même temps. Donc ils en sortent plutôt bien, je trouve, sur la dernière bobine.
Et en plus, quelque chose qui est pas mal par rapport au dernier samouraï, on n'a pas ce côté l'occidental qui vient, qui que nos rives, il est vraiment mêlé, il est traité sur un pied d'égalité avec tous les... Bon, c'est le héros... On voit bien que c'est Keanu Reeves, mais il est vraiment sur un pied d'égalité avec les autres. C'est autant un héros que d'autres personnages secondaires. Il n'y a pas ce côté des derniers samouraïs où il y avait quand même Tom Cruise qui était mis en avant.
D'accord, mais sauf que là, il y avait un vrai caractère épique. Et moi, je sais pas, le dernier samouraï, moi, j'étais vraiment dedans. Et,
moi aussi. Moi,
c'est un film que j'aime beaucoup parce que, justement, parce que Tom Cruise, déjà, il
est Ken très Watanabe, bon. Quoi.
Et qu'il y a vraiment un côté épique, il y a un côté, tu t'investis dans le truc. Et même si, c'est justement parce qu'il y a le côté occidental et peut-être qu'il y a l'identification qui fonctionne mieux, je sais pas, mais... C'est un peu à la gloire de Tom Cruise, mais ça fonctionne au moins.
Ils sont aidés de Tom Cruise pour le côté découverte, on va dire, de l'univers, alors que là, ils ont essayé de faire...
Parce que c'était dans ça avec les loups, quoi, chez les samouraïs, sauf que... Mais là, ils te font un truc...
Bah là, ils ont plus essayé de l'inscrire dans la narration, le côté découverte dans 47 Ronin, plutôt que par un personnage...
C'est le côté aussi Keanu Reeves, voilà, je suis zen, moi, je suis...
Je pense qu'ils ont essayé de le mettre en avant. Pardon, excuse-moi.
Non, mais pas du tout.
Mais c'est juste qu'il a aucun charisme, en fait. Il est transparent.
C'est pas ça non plus, parce que c'est pas lui. Bah,
c'est le personnage qui se met en retrait.
Non, Keanu Reeves est transparent.
Oui, non, mais Keanu Reeves, non, d'accord.
Il a une mimique.
Oui, on est d'accord. Le personnage n'aide pas non plus. C'est-à-dire que le personnage est assez en retrait à la base. Donc quand un personnage en retrait joué par un Keanu Reeves, voilà quoi.
Non, mais ce qui est intéressant.
En plus, qu'il n'ose pas assumer son destin, qui est toujours de
Non, mais ça, ce côté-là du personnage est intéressant parce que c'est un personnage qui tend toujours l'autre joue quand en fait il est là. Et par amour et par respect pour son maître, etc., le mec, il va se mettre plus bactère et il va faire passer l'intérêt de son maître et de ses camarades avant son propre intérêt ou sa propre vie, quoi. Donc ça, c'est assez beau, même si c'est déjà vu, mais, mais quand on connaît l'amour de la culture asiatique de Keanu Reeves, je trouve ça assez touchant, quoi.
Et d'ailleurs, Man of Tai Chi, qui sort le 30 avril... donc on n'a pas encore vu.
Des échos pas si mal.
Ah, ça dépend, moi j'ai tout entendu. Oui. J'ai trouvé de Immonde Booze à un film plutôt pas mal. Moi, d'ailleurs, dans 47 Ronin, j'ai l'impression qu'ils ont piqué un personnage à Wolverine aussi. Le grand samouraï de métal.
Samouraï d'argent.
D'ailleurs, l'acteur qui joue le samouraï fait 2m33, je crois.
Ah oui, quand même.
Je sais pas comment il doit être en vrai.
C'est un samouraï basketteur ou...
Non, bah, je sais pas, mais ça doit être assez impressionnant en vrai.
En fait, c'est Shaquille O'Neal qui était dans le... C'est ça. C'est la suite de Shazam, en fait. De Kazam.
Il y a un côté quand même un petit peu dérangeant dans le film. Alors, je sais pas si ça vous a sûrement fait la même chose, mais le fait que l'intégralité du film soit en anglais, que les acteurs japonais ont appris apparemment un texte, j'ai l'impression qu'ils l'ont appris phonétiquement, parce que c'est très très difficile à suivre, et ça donne un côté un peu ridicule
mais
au
en fait,
film.
En fait, le truc, c'est que le film a été tourné en japonais. J'ai vu que le film a été tourné en japonais, mais que Keanu Reeves, qui produit, etc., qui a aidé, etc., qui n'était pas, quoi, tout le monde n'était pas convaincu de cette version-là, en fait. Mais je pense que c'est plus Universal qui a mis un petit coup de pression.
Sortir un film en japonais, bon.
Et puis de toute façon, les films sous-titrés marchent pas aux États-Unis. Soit ils les sortent sous-titrés, ça marche pas, soit ils font des remakes. Donc,
c'est un choix compréhensible, mais c'est pas bien amené, quoi. Il y a un truc, tu sens qu'il y a un truc qui va pas, parce que même c'est pas naturel, le jeu des japonais n'est pas naturel.
En même temps, il y a des films très connus, très reconnus, qui fonctionnait comme ça, Le Dernier Empereur est tout en anglais.
Bien sûr.
Ça a gêné personne.
Non, c'était aussi une autre époque, et pour le coup, c'est vrai que maintenant ça gêne un peu plus, notamment quand tu fais un film qui se passe en Asie. Si tu trouves pas un subterfuge pour amener ça, pense notamment à l'avant-dernier Bryan Singer,
Valkyrie. C'était très bien ça.
Où il a réussi un switch de l'allemand à l'anglais au début du film, et on comprend que quand les personnages parlent un anglais parfait.
La voleuse de livres aussi qui est sortie cette année, c'est pareil. Allemand. Ça commence en allemand et ça continue en anglais.
C'est très bien.
Parce que tu avais aussi Mémoire d'une geisha qui est tout en anglais du début à la fin. Bon, c'est pas le plus gros défaut du film, il y en a d'autres, mais pareil, c'était aussi. Bon, c'est vrai que c'est un peu dérangeant, mais c'est pas ce qui me choque le plus.
Nous allons maintenant parler d'un film qui est entièrement en coréen, qui est un film dont on a beaucoup parlé sur le site, c'est Sun Young de Shin Soo-won. Justin, tu l'as vu, tu n'en as pas encore parlé, parce que je crois qu'autour de cette table, quasiment tous ceux qui l'ont vu en ont parlé. Qu'en as-tu, de quoi ça parle ? Rappelle-nous brièvement l'histoire et qu'en as-tu pensé ?
Alors ça nous plonge un peu dans le monde de l'éducation en Corée, donc un monde très concurrentiel. Donc le film s'ouvre sur la mort d'un élève, et donc on a un autre élève qui est accusé, qui met en garde à vue, qui est accusé du meurtre. Et donc à travers ça, il y a un flashback qui va se mettre en place sur le passé de tous les personnages qui gravitent autour de cet élève, et donc on découvre un peu le fonctionnement des lycées coréens, donc est très concurrentiel, où on peut avoir des bonnes notes et malgré tout être très très loin des meilleurs, vu que c'est sorte de top 10, il y a une classe pour les 10 meilleurs de l'établissement qui sont privilégiés, qui peuvent réviser plus tard, qui sont mis en avant. Et du coup, il y a une concurrence pour rentrer dans ce club-là, donc pour avoir le Sun Young, qui est l'équivalent, on va dire, du baccalauréat. Et donc on découvre toute cette concurrence, toute cette opposition entre les élèves pour garder toutes les manigances qui sont prêts à faire, vu que finalement travailler pour avoir des bonnes notes, ça c'est pas le plus important, c'est pas le meilleur atout pour être parmi les premiers. Au contraire, faut se tirer dans les pattes, se faire les crasses les plus diverses. Donc du coup on découvre un peu cet univers là, et c'est vraiment plutôt bien traité. Il y a un côté un peu mystique avec l'éclipse qui a un peu qui nous sort un peu du film par moment, mais dès qu'on reste dans les flashbacks, dans le côté cette opposition entre les élèves, l'exclusion des moins bons, c'est quand même assez passionnant. Quoi.
Bah ouais, parce que le film à la base s'appelait Pluto, donc en référence à l'ex-planète Pluton. Et justement, il y a une espèce de métaphore comme ça tout le long du film avec le petit élève qui veut essayer de rentrer dans la cour des grands, quoi. Donc, et Pluton, qui est la planète qui est exclue du système solaire, entre guillemets, ouais. Et donc qui voudrait rester parmi l'élite, quoi.
Et ça, voilà. Ça marche plutôt bien. Il y a un aspect assez métaphorique sur le film, du fait que ce soit un film qui peut paraître comme ça très, très terre-à-terre, très, très social, et finalement qui a plusieurs niveaux. Il y a l'aspect sociologique du film. Il y a l'aspect film de genre, parce que c'est aussi, c'est aussi autour d'une enquête qui est assez rapidement résolue, mais qui est assez bien amenée par rapport au flashback. Et surtout cet aspect métaphysique qui, moi, m'a le plus intéressé, justement, sur ce côté un peu métaphorique, sur la place, effectivement, de ces jeunes qui sont prêts à tout sacrifier pour rentrer dans la société, et qui, malgré ce sacrifice perpétuel, s'en trouvent exclus finalement, et ne trouvent jamais leur place là-dessus. Et là, c'est vraiment le côté intéressant, en arrivant à manier ces différents niveaux de lecture du film, de faire quelque chose d'assez homogène et donc d'assez satisfaisant finalement.
Et ce qui est étonnant, c'est d'après ce qu'on avait vu dans l'interview sur Eastasia, c'est qu'il y a des choses qu'ils avaient inventées pour le film, ils se sont rendus compte qu'elles existaient vraiment dans la réalité, les 10 meilleurs, les top 10. De l'établissement qui est privilégié, qui surclasse tout le monde, et apparemment elle avait inventé pour le film, vu que c'est une ancienne, enseignante. Ouais. Ça n'existait pas à son époque, donc elle a inventé, elle pensait être un peu dans l'anticipation, alors que ça existe déjà aujourd'hui, même voire dans d'autres pays, donc un aspect assez intéressant quand la réalité dépasse la fiction.
Voilà, donc Sun Young est encore en salle, donc dépêchez-vous d'aller le voir. Enfin, maintenant, il y a deux semaines, trois semaines,
Dépend
la mise en ligne du podcast. En tout cas, il est sorti donc le 9 avril, et le troisième film de la sélection est sorti le 16 avril, c'est Les Trois Sœurs de Yunnan, qui est l'avant-dernier film de Won Bing, je crois même qu'il en a fait deux depuis. Sidi, tu l'as vu, est-ce que tu peux nous rappeler le cadre du film, et ce que tu en as pensé?
Alors c'est vrai que c'est une sortie qui tombe à point nommé, puisque Wang Bing, du 14 avril au 26 mai, est mise à l'honneur au centre Pompidou. On aura notamment une rétrospective intégrale de ces films. Il y aura une, je crois, une exposition.
Oui, voilà, une exposition photographique.
Photographique. Et puis quelques vidéos de sa correspondance avec Jaime Rosales, le cinéaste espagnol. Donc voilà, le film est sorti donc la semaine du début de cette...
Du 16 avril.
voilà. voilà. Et donc, c'est quoi les trois sœurs de Yunnan? Bah, Aung San Suu a rencontré en 2009, lors d'un voyage dans la région, trois petites filles, vraiment, je crois, entre 10 et 3 ans, peut-être. Enfin, voilà, elles sont vraiment très jeunes. Et voilà, il les a rencontrées, il est allé passer quelques heures ou quelques jours avec elles, et il a été fasciné par la sœur aînée, qui avait déjà une personnalité très forte, qui se débrouillait comme une femme. Déjà, c'est dû notamment à l'absence des parents, le père qui est régulièrement en voyage en ville, la mère qui est absente. Voilà, et le fait est que quelques années après, je crois que c'est Arte qui lui a proposé de réaliser un film. Et il a pensé à ces filles-là, justement. Il s'est dit que ce serait peut-être intéressant de leur consacrer un documentaire. Et de là est né Les Trois Sœurs du Yunnan, qui est un film qui va suivre... sans aucune intervention directe, sans aucune médiation particulière de Wang Bing, le quotidien de ces petites filles, mais pas seulement, également du voisinage, de leur famille. Ces filles seront présentées à travers des... Voilà, quoi, on appelle ça, des sous-titres, enfin, qui indiquent leur prénom et leurs âges. Et ça sera pareil pour chaque protagoniste. Et pendant 2h30, on va tout simplement voir ce labeur. Ce labeur qui ne tendra pourtant jamais vers le misérabilisme, c'est-à-dire qu'elles vivent des situations extrêmement difficiles. Elles mangent quotidiennement, je crois, des patates.
Des pâtes et des patates.
Voilà, quoi, c'est ça. Hein, je crois que elles ne subsistent vraiment qu'avec un seul aliment général. Et on pourrait, d'une certaine manière, se dire que c'est un film qui existe pour nous montrer cette misère et nous donner envie de nous révolter ou de pleurer, mais il y a quelque chose de plus fort, c'est-à-dire que Wang Bing a cette manière très particulière, depuis son premier documentaire, de nous montrer la condition difficile des travailleurs ou des gens qui n'ont pas de travail dans cette Chine, qui est pourtant l'une des grandes puissances d'aujourd'hui, mais tout en réussissant à garder une distance qui nous permet d'être simplement pris par l'aspect flottant de l'image. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de... Je ne sais pas si on peut parler d'existentialiste.
Bah, il y a une dignité, en fait. C'est le mot qui me vient tout de suite à l'esprit. Il met au centre avant tout la dignité humaine, mm-hmm, dans ce qu'ils font, dans leur labeur, plutôt que comme tu disais, ça ne tombe jamais dans le misérabilisme, quoi. C'est pas fait pour pleurer à la base. C'est pour montrer comment c'est sans fioriture, quoi, tel quel.
Exactement. Il a vraiment une juste distance. Il y a une sorte de pure déontologie documentaire qui fait qu'on arrive à tenir pendant ces 2h30 sans trop se poser de questions, sans trouver ça obscène, par exemple. Parce qu'il y a quelque chose de révoltant, quelque part, à voir ça. Est-ce que lui peut faire quelque chose en tant que filmeur? Je ne pense pas, avec ses petits moyens, vu les conditions dans lesquelles il travaille dans son propre pays, je ne pense pas. Est-ce que nous, le fait de regarder ça, on doit se dire qu'on est un peu dans une situation un peu, on va dire, de...
privilégié?
Oui, c'est-à-dire le spectateur... Oui. Extérieur à ça, voyeur, qui regarde. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a du voyeurisme à regarder ça?
Mais alors, pour le coup, ce sont des questions que l'on se pose pendant le film, ou que la mise en scène met à distance, justement, en nous montrant à voir ce qu'est leur existence.
La mise en scène en elle-même, je pense, n'invite pas à se poser ces questions. Je pense qu'on se les pose après coup. On se les pose en se disant j'ai aimé voir ce film en tant que film, mais en même temps, est-ce que c'est acceptable de trouver ça beau alors que la réalité de ce qui nous est montré à quelque chose d'assez inacceptable. Et voilà, moi, c'est en ce sens, au fait. Wang Bing en lui-même n'accentue pas les choses, mais je pense que le spectateur en lui-même peut avoir une forme de culpabilité, en tout cas après coup, de trouver une sorte de beauté dans ce qui en soi ne l'est absolument pas. Donc voilà, c'est un film extrêmement riche, qu'on n'est jamais trop sûr de l'aborder de la meilleure manière, au fait, tellement... ce qui nous est exposé est extrêmement évident, extrêmement simple, extrêmement pur, et en même temps, ça travaille en profondeur vraiment notre statut de spectateur et également le statut de documentariste. Et voilà, quoi, je pense qu'il faut de toute manière le voir pour se rappeler que le documentaire est un genre à part entière qui propose de grands films contemporains.
Je sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose sur.
Sur l'aîné hein, qui s'appelle Ying Ying, qui est quand même, enfin, il en fait vraiment une, quasiment une héroïne de cinéma, quoi. C'est assez incroyable le courage qu'elle démontre pendant tout le long du film, et on est au final on est vraiment admiratif en fait de ce qu'elle fait. On a envie de l'aider, quoi. On a envie d'y aller direct et de dire putain, vas-y, je lui donne tout mon fric, je m'en fous. Elle mérite tellement plus que moi par rapport à ce que j'ai fait moi dans ma vie que voilà, c'est forcément, oui, c'est comme tu dis, on ressent un peu de la culpabilité, c'est surtout à ce niveau-là, quoi. Et surtout
mais
qu'en
ça,
plus,
c'est
elle
toi
est...
qui le ressent, quoi. C'est pas la mise en scène de Wong
Bing. Non. Mais justement, lui, il n'y a pas d'angle en fait. C'est un documentaire. Normalement, dans un documentaire, tu dois avoir un vrai angle, un point de vue. Mais là, il essaye au maximum d'avoir un angle neutre en fait.
Mais pourtant, lui est présent dans la mise en scène. Ouais.
C'est vrai.
Lui s'implique dans. Voilà, on le voit filmer. On sait qu'il filme, on sait qu'il y a quelqu'un.
Oui, parce qu'en plus, encore un moment, il la suit dans les montagnes, des trucs comme ça. Et on entend son souffle et tout. Enfin, lui ou ses cadres, parce que je crois qu'ils sont trois. Ils étaient trois à filmer. Et on sent qu'il s'efface même pas en fait.
Il a même eu des problèmes de santé pendant le tournage. Il a eu le mal des montagnes.
Au bout d'un moment.
Voilà, ce qui fait qu'il a demandé à un de ses collaborateurs d'aller filmer quelques jours à sa place parce qu'il ne pouvait plus, lui, aller sur les lieux mêmes. Et même après coup, une fois que le film était terminé, apparemment il n'a pas pu aller sur les lieux pour le montrer au protagoniste et seul le père. Et je crois descendu pour pouvoir voir le film. Enfin, j'avais cru lire ça dans le dossier de presse. Et également, j'ai lu dans le dossier de presse qu'il avait rencontré la mère des filles, qui n'est quasiment jamais évoquée, ou voire jamais. Et voilà, on a cru comprendre qu'elle était absente pour des... moins parce qu'elle voulait abandonner ses enfants que parce qu'elle était en discordance avec la famille même du père des filles. Enfin, il y a quelque chose.
Il faut dire que là où ils sont, donc dans la province de Yunnan, il y a, je crois, 80 familles dans la zone, donc qui sont tous là, dans les différentes maisons qui sont réparties sur les montagnes, et d'ailleurs qui se réunissent, hein, il y a une séquence où ils se réunissent tous à la fin, et ça a l'air d'être une grande famille, il y a les oncles, les cousins, les tantes, les voilà quoi, et en plus la famille qui est au centre, donc la famille avec les trois sœurs, ça a l'air d'être la famille un peu la famille qui est un peu en bord de tout ce groupe-là, c'est-à-dire que quand ils se retrouvent à la fin, ils sont un peu exclus, quoi. On sent qu'il y a, quelques fois, ils sont un peu exclus, quoi. Quand à un moment, ils demandent pas d'aide, mais les autres les aident pas, quoi. C'est chacun un peu chacun pour sa gueule aussi. Il y a une espèce de discordance comme ça au milieu même de toute cette grande famille, quoi. Avec la tante, à un moment, je sais plus, enfin, je me rappelle plus trop de la scène, mais elle exclut, enfin, elle s'en fout d'elle, en fait.
Oui, c'est ça, il y a quelque chose d'un peu minoritaire, c'est ça, est-ce que c'est une exclusion directe, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'insidieux qui fait qu'on sent que cette famille, de toute manière, n'a pas trop son mot à dire, voilà quoi, dans l'organisation même de la communauté. Et voilà quoi, je pense qu'au moment où Wang Bing commence à s'intéresser à cette famille, il s'est déjà passé énormément de choses et que, voilà, c'est un film vraiment extrêmement riche. Pendant ces 2h30, vraiment, on est au cœur de ce quotidien, à la fois répétitif, un peu comme dans certains films de misère qu'on a vus récemment, tels que des films de fiction comme Le Cheval de Turin de Bellatar, même si on est dans un registre beaucoup plus sombre dans ces films de fiction, ou même le Tsai Ming-yong dont vous avez parlé il y a un mois. Mais voilà, quoi, c'est un peu en droite ligne de cette question-là, de ce qu'il reste à faire, d'une certaine manière, lorsque il n'y a peut-être pas de salut possible, mais paradoxalement, le documentaire arrive à créer presque de l'horizon, arrive à créer quelque chose de l'ordre du possible. C'est une des grandes forces de Wang Bing en lui-même et peut-être du documentaire en particulier. Ouais.
Bon bah très bien, je crois qu'on a fait le tour des films en salle. Hein. Nous allons donc passer maintenant aux films qui sont sortis au DVD au mois d'avril. À tout de suite.